lirai deux textes pour la prédication de Philippe qui va suivre. Le premier se trouve dans Psaume 1. Heureux, pas tout à fait comme Fernand Reynaud, mais heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Et le suivant dans Luc 6, à partir du verset 20. Alors Jésus, regardant ses disciples, dit « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des dieux vous appartient. Heureux êtes-vous, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront, vous rejetteront, vous insulteront, vous chasseront en vous accusant de toutes sortes de maux à cause du Fils de l'homme. Quand cela arrivera, réjouissez-vous et sautez de joie, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est bien de la même manière que leurs ancêtres ont traité les prophètes. Mais malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez déjà reçu toute la consolation que vous pouvez attendre. Malheur à vous qui maintenant avez tout à satiété, car vous aurez faim. Malheur à vous qui maintenant riez, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres ont traité les faux prophètes. Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient.
À mon tour de vous saluer. Le même Fernand Reynaud, humoriste des années 60, c'est le même qui disait aussi « Mieux vaut être jeune, riche et en bonne santé que vieux, malade et sans le sou. » Oui, évidemment. Le thème que nous avons sur le cœur, enfin, en tout cas Roger et moi, mais je pense que peut-être plusieurs parmi nous, c'est « Est-ce que la foi chrétienne rend heureux ?» Je vous propose encore un petit scénario pour illustrer le propos. Imaginons que nous voyons, nous rencontrons un jeune couple qui vient pour la première fois dans notre communauté, ils sont étrangers à la communauté, c'est donc ce qu'il y a de plus souhaitable. Et ils ont l'air aussi étrangers par leur physique. Et à l'issue du culte, ils sont pressés, on leur donne la main, on leur dit bonjour. On serait tenté de leur demander un peu d'où ils viennent. Et ils nous disent précipitamment « Oh, au revoir, nous allons prendre l'avion pour rentrer dans notre pays parce que, oh, pour notre dernier jour à Genève, nous sommes venus pour une affaire de profession et pour notre dernier jour à Genève, nous sommes venus ici parce que nous avons vu église sur la porte, sur l'entête et ce qui nous intéresse, on ne sait pas ce que c'est une église, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir si la foi chrétienne rend heureux. Alors notre réflexion ce matin nous donnera, je le souhaite, quelques points de repère pour répondre à cette question qui pourrait concerner non seulement ce couple imaginaire et auquel il faut répondre en trois phrases. Ils sont pressés, ils vont prendre l'avion. Et Ça peut aussi nous concerner nous-mêmes à certains moments de notre vie. La foi chrétienne rend-elle heureux? Les valeurs qui la composent donnent-elles de meilleures perspectives de bonheur que celles que nous propose le monde, laïque, d'autres religions, humanistes, non-croyants, peu importe? Alors, à la lecture de notre premier texte, vous y avez été attentif, on pourrait émettre un cri du cœur, spontanément. Évidemment, la foi chrétienne rend heureux. Le serviteur de l'Éternel est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, feuillage abondant, fruits abondants, santé éclatante, tout ce qu'il fait réussit. Écoutez, si ce n'est pas ça le bonheur. Toutefois, si j'ai exprimé un tel cri du cœur et remis peut-être un évangile à ce jeune couple qui prend l'avion, mais que leur destination, c'est l'Iran, l'Arabie Saoudite ou l'Irak du Nord, ça ne sera peut-être pas si heureux et si joyeux après l'atterrissage. Et si nous nous trouvons nous-mêmes devant une alternative, un jour, peut-être qu'il existera, peut-être qu'il n'existera pas, mais si nous nous trouvons un jour devant l'alternative où il faut trancher, soit pour la foi chrétienne, soit pour l'aisance matérielle, par exemple, sans aucun moyen de transiger, c'est une alternative, c'est l'un ou l'autre, comme beaucoup de nos frères et de nos sœurs dans ce monde, je me demande si nous choisirions si aisément la foi chrétienne au nom du bonheur qu'elle procure. Il est assez facile de constater que pour une majorité de personnes aujourd'hui, l'aspiration au bonheur est de nature matérielle ou individuelle au sens de l'épanouissement de soi-même. Et nous allons voir même qu'il existe une tyrannie du bonheur obligatoire, mais nous nous poserons aussi la question de quel bonheur parle-t-on ? Il y a une centaine d'années, à peine, une petite centaine d'années, la majorité des gens en Europe cherchaient non pas l'épanouissement personnel, mais plutôt à assurer sa survie, manger tous les jours, avoir de quoi se vêtir, avoir de quoi élever une éventuelle famille. La préoccupation majeure était vraiment la survie. Et je pense que Fanny Huchetti, notre amie qui a créé cette petite unité de microcrédit, pourrait nous en parler, pourrait nous parler de cette préoccupation de la survie qui est encore actuelle pour de nombreuses personnes. Mais à part ce constat, il y a un problème de fond. Les chrétiens sont-ils objectivement plus heureux que les autres? Je ne sais pas si des études scientifiques ont été faites sur ce thème. Peu importe, hein, parce que, comme vous le savez, on dit qu'il y a trois sortes de mensonges. Hein. Les petits mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Donc, en fait, c'est pas une étude scientifique qui nous intéresse. Mais je dirais intuitivement, et peut-être un peu ratère, excusez-moi, mais si objectivement les chrétiens étaient plus heureux que les autres, ça se saurait. Et les églises seraient pleines à craquer. Or, ça n'a pas l'air d'être le cas, je ne dis pas ça pour aujourd'hui, pour nous, hein. Mais si nous allons dans certaines églises le dimanche, c'est pas forcément plein à craquer, on ne se bagarre pas pour avoir des budgets, pour augmenter la capacité d'accueil dans les églises. Et donc, il faut nous interroger sur la nature du bonheur et surtout les raisons que nous avons, nous chrétiens, d'être heureux. Hormis nos deux textes bibliques que Roger nous a lus, j'ai fait deux lectures qui m'ont interpellé. D'abord un article d'une petite assemblée évangélique située au nord de Paris, sous la plume d'un certain Joubert, Alain Joubert. Je ne le connais pas, je ne sais même pas s'il est ecclésiastique. Il faisait des réflexions intéressantes, je cite son nom parce que j'ai pris quelques éléments de son texte. Un autre article c'est celui d'une tribune de Genève, un journal, disons, très, très superficiel, mais un article de Pro Juventute, un organisme de sauvegarde de la jeunesse, qui a paru le 21 octobre 2014, donc c'est tout récent, hein, 10 jours, qui lance un cri d'alarme sur le stress destructeur que subissent nombre de jeunes qui veulent se conformer à l'image du bonheur véhiculée par les réseaux sociaux et autres canaux multimédia, téléphone et tout ça. Les réseaux sociaux, alors je le dis peut-être pour les plus âgés, c'est ces choses qu'on appelle Facebook, surnommé Facebook, ce réseau où on peut balancer notre photo et ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, surtout tout ce qu'on fait pas. Et puis ça, on continue et tout le monde, dans le bus et partout, pianote sur son téléphone pour se dire « je fais ça ou je fais pas ça ». Donc, je vous cite un petit morceau de cet article. Pro Juventute lance une campagne intitulée « La vraie vie ». Elle rappelle aux jeunes que les photos publiées sur les réseaux sociaux sont loin de refléter la réalité. Selfie parfait, selfie les photos de soi-même, hein. Selfie parfait, photos montrant les copains dans des fêtes magnifiques. Ils font miroiter aux ados sur Facebook l'illusion d'une vie idéale. Alors par vie idéale, comprenez dans laquelle tout le monde est jeune, tout le monde est beau, il n'y a pas de limite financière, il n'y a pas de soucis professionnels ou scolaires, et surtout, il n'y a pas besoin de faire un effort pour obtenir ce merveilleux état. En Suisse, environ 25%, c'est quand même un quart, des jeunes de 15 à 19 ans affirment être déstabilisés par la comparaison à ces images. Doute à l'égard de soi-même, angoisse, trouble obsessionnel, trouble alimentaire, allant jusqu'à la dépression. Des dégâts liés à la confrontation permanente des adolescents à des représentations d'une vie parfaite, soi-disant parfaite, et cela est dramatique. À l'image d'une jeune fille de 13 ans qui s'inflige des meurtrissures par désespoir parce qu'elle se trouve moche et inintéressante par rapport à ses amis, vous mettez entre guillemets, ses amis sur Facebook, ou ce garçon de 15 ans qui fait tellement de musculation par peur de ne jamais trouver de petite amie qu'il n'a presque plus le temps de rencontrer ses copains en toute insouciance. Pro Juventute souligne que la vie soi-disant parfaite des autres ne correspond pas à la réalité. Les photos publiées sont loin de refléter le quotidien et sont généralement retouchées ou modifiées par des filtres pour les rendre plus flatteuses. Fin de la citation. Donc, nous sommes devant une tyrannie. La tyrannie d'un modèle de bonheur qui s'impose par le biais de médias représentatif pour le cas de la jeunesse, et d'une jeunesse qui aspire légitimement au bonheur, et bien sûr, légitimement, je crois que tous nous aspirons, et les jeunes d'autant plus, à un certain bonheur. Et comme beaucoup pensent, comme je le pense aussi un peu, malgré mon âge, que réussir son histoire d'amour, c'est réussir sa vie dans tous les domaines. Donc, beaucoup aspirent à ce qu'on leur dise « je vous aime, je t'aime ». Et ils balancent parfois dans cette quête leurs photos, sans discernement, sur ces réseaux, et ils s'exposent à un jugement implacable qui se présente sous la forme de deux petits scores, le score des « j'aime » et le score des « j'aime pas », hein, « j'aime pas ». Alors, un jeune qui se trouve confronté, après avoir balancé sa photo en train de faire je ne sais quelle activité, qui balance sa photo et qui se voit recevoir de nombreux « j'aime pas », eh bien, il s'entend dire en fait « on n'aime pas, mais à toi de savoir pourquoi ». Parce que les « j'aime » ou « j'aime pas », c'est jamais pour tel motif ou pour tel motif. Et donc, on n'aime pas, un point c'est tout, et bonjour les dégâts dans la personnalité de jeunes qui ne sont pas encore un peu solides pour prendre du recul, notamment les jeunes adolescents. Inutile de vous faire un dessin pour voir, pour savoir où je veux en venir. Comment va-t-on articuler ces choses avec les béatitudes du Christ, montrant qu'il existe une source de bonheur qui n'a rien à voir avec la tyrannie du bonheur mondain, fortement coloré par les conditions de vie matérielles et l'épanouissement personnel. À première lecture, on peut s'étonner des sujets d'être heureux donnés par Jésus. Pleurs, désaveu social, calomnie, persécution. Heureux les malheureux. Heureux les malheureux. C'est presque ça. Est-ce que ces conséquences de la foi au Fils de Dieu sont-elles une sorte de bonheur? Je dois dire que j'étais un peu... Je me suis posé beaucoup de questions. L'apôtre Paul, qui me paraît être quelqu'un de relativement affermi dans la foi, a donné de nombreuses exhortations pratiques, notamment à la communauté des Thessaloniciens, Thessaloniques. Et on voit en 1 Thessaloniciens 5, « Soyez toujours joyeux, rendez grâce pour toutes choses. Est-ce réellement possible ?» Moi, j'aimerais bien contrôler mes états émotionnels, puis me dire, je me commute sur joie. Je me commute sur joie, je suis toujours joyeux, je suis le ravi, je suis le ravi du village. Toujours joyeux, comme Fernand Reynaud, le cantonnier, heureux. Moi, j'arrive pas à faire ça. Alors, je sais pas, moi, je peux pas parler pour les autres, mais pour moi, j'arrive pas. Et je me demande, est-il possible d'être toujours joyeux? Malgré le slogan des années 70, 80, cette époque un peu dans la mouvance de Maurice Ray, cet évangélisme de cette époque qui balançait des fois des slogans dont un était un chrétien triste est un triste chrétien, cette espèce de petite maxime hein, comme ça. À mon avis, le genre de slogan parfait pour faire des dégâts dans la vie des chrétiens. Revenons à Paul qui disait aussi aux Corinthiens cette fois, jusqu'à présent nous souffrons, donc chrétiens affermis, nous souffrons la faim, la soif, nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errant de lieu en lieu, nous nous épuisons à travailler, de nos propres mains bien sûr, on nous insulte, nous bénissons, on nous persécute, nous le supportons, on nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité. Est-ce que le fait d'être réduit à l'état de balayure du monde est une forme de bonheur? Si nous étions atteints du trouble de la personnalité, décrit sous le terme de masochisme, le masochisme, c'est une érotisation de la souffrance. Oui, ça sera un vrai bonheur, mais il faudrait être malade. C'est là le problème. Alors, si ce n'est pas le cas, si le fait d'être les balayures du monde n'est pas un vrai bonheur, comment est-ce qu'il faut en parler? Ces béatitudes de Jésus-Christ sont-elles magnifiques seulement si on est dans un bon fauteuil, après un bon repas, dans la sécurité politique et avec un compte en banque bien garni? Lorsque Job a été dépossédé de tous ses biens, était-il heureux? Alors il me semble que nous sommes dans une situation paradoxale, comme si deux vérités contradictoires coexistaient en nous. D'une part, il nous faut porter notre croix et subir divers maux qui n'ont rien de très heureux en eux-mêmes, et d'autre part, nous sommes exhortés à être toujours heureux. Je vais faire une petite parenthèse. Nous commémorons aujourd'hui, non pas la Toussaint, mais le 497e anniversaire de la Réforme, qui a été initié en 1517 par l'affichage de 95 thèses de Martin Luther sur la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne. À l'origine, ce devait être une réflexion visant à alimenter un débat interne à l'Église catholique. ça a mal tourné, comme nous le savons, et Luther a été excommunié de l'Église catholique en 1521. D'où la naissance du protestantisme, berceau de notre sensibilité évangélique, mais le protestantisme n'est pas réputé pour être une théologie d'un bonheur exubérant. C'est même le contraire. Le calvinisme, en particulier, il n'a pas tellement la réputation d'être le jeu de cartes avec le demi-blanc et le cigare. C'est la religion de l'austérité. Et il suffit de comparer l'aspect très fastueux de certaines cathédrales avec nos églises protestantes où il y a juste une croix, aucun apparat, pour se rendre compte de cette différence culturelle. Ce qui me concerne, je suis très heureux d'être né dans une culture protestante. Mais bref, fermons la parenthèse ici. Revenons à notre question de savoir comment un chrétien peut porter sa croix, indice pour le moins de souffrance, et simultanément être toujours joyeux. On ressent l'austérité comme quelque chose de contraire à la quête du bonheur, d'un bonheur auquel aspire la société, à la recherche de bien-être personnel, à la recherche de l'accomplissement de soi, à la recherche de l'amélioration permanente de ses conditions de vie et du refus de tout interdit au nom de la liberté personnelle. La tendance à la mode aujourd'hui consiste à chercher un bonheur immédiat plutôt que promis, c'est-à-dire le paradis sur terre, puisque l'au-delà ne fait plus partie des préoccupations du moment. J'ai appris avec grand intérêt une petite nuance de langage. Dans les béatitudes, le mot traduit par « heureux » pourrait être aussi traduit, selon certaines recherches, par « debout ». Debout, en marche, en avant. Il traduit la situation de ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. On voit alors les exhortations des béatitudes qui ne sont pas des mortifications, mais plutôt des quêtes actives de justice et de marche avec Dieu, malgré l'adversité ou l'hostilité que celles-ci peuvent nous valoir. La quête du bonheur pour nous, ce n'est pas le bien-être, c'est la recherche de Dieu et de sa justice. En d'autres termes, le bonheur terrestre et immédiat n'est pas l'objectif fondamental de la foi chrétienne. Un chemin étroit et difficile mène au royaume. Perdre sa vie ici-bas est le chemin pour la retrouver au-delà de la vie terrestre. Et pour nous en convaincre, remarquons que Jésus, notre modèle et sauveur, n'a pas été spécialement heureux selon les critères de ce monde. Pauvre, né dans la pauvreté, il pleure devant le décès de son ami Lazare. Il rencontre une opposition pas possible de beaucoup de gens. Il est haï sans cause. Il est calomnié de toutes les façons possibles. Et il meurt abandonné de tous dans une grande souffrance physique. Et il n'a lui-même pas enseigné le bonheur par l'épanouissement personnel, voire matériel. C'est tout le contraire. Il a même reproché à l'apôtre Pierre, son ami, de vouloir son bonheur à lui, à Jésus, en rejetant les tribulations dont Jésus prédisait l'arrivée proche. Il disait, je vais y passer, je vais mourir, et je vais souffrir beaucoup de la part des anciens, des religieux de mon temps. Et Pierre lui dit, mais cela ne t'arrivera pas. Et Jésus le lui reprochait durement. C'est comme si Pierre disait à Jésus, mais ton statut divin de tout-puissant te permettra d'esquiver toute souffrance, toute douleur. Or, comme tous ceux qui portent leur croix, les disciples de Jésus à sa suite, Jésus avait décidé de renoncer à lui-même plutôt qu'à sa mission. En conclusion, je vais vous donner quelques petite phrase résumée avant les trois phrases qu'on doit à ce couple, hein, ce couple qui prend l'avion. On doit lui donner une raison d'être heureux ou pas, ou est-ce que la foi chrétienne les rendra heureux? On a 30 secondes pour le leur dire. D'abord, le bonheur et le malheur c'est des composantes de la vie de tous les hommes et de toutes les femmes, de toute l'humanité. On n'est pas que heureux ou que malheureux. Deuxièmement, notre devoir de solidarité comme chrétien ne nous permet pas d'être heureux sans participer au soulagement de ceux qui souffrent, ou d'être riche sans participer au soulagement de ceux qui souffrent de pauvreté, ou d'être bien portant sans venir en aide ou participer au soulagement de ceux qui sont malades. Troisièmement, la foi chrétienne, c'est d'abord la bonne nouvelle attachée au nom de Jésus. Et cette valeur insurpassable ne peut pas nous être enlevée. Et ça, c'est une composante d'un bonheur permanent. L'avenir, il est radieux pour ceux qui ont la foi, parce qu'ils ont reçu un salut qui ne se mérite pas et qui existe, qui a déjà été accompli. Et donc ça, c'est un élément de bonheur permanent. Quatrièmement, lorsque nous souffrons, si nous souffrons, mais je dis lorsque nous souffrons, parce qu'en ce qui me concerne, moi je souffre parfois. Lorsque nous souffrons, le bouclier de la foi nous préserve de notre logique humaine qui nous incite à croire que Dieu nous abandonne. Rien n'est plus faux. Dieu ne nous abandonne pas si nous souffrons. Il est avec nous et nous permet de lui parler de nos tribulations. Nous pouvons là dire comme David, le roi David qui a beaucoup souffert, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ils seront avec moi dans les bons jours et dans les mauvais jours. Enfin, la requête, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, nous exhorte à nous satisfaire de l'essentiel, le pain. Donc à relativiser nos envies, c'est-à-dire nous aide à ne pas confondre entre nos besoins normaux et nos désirs, qui sont insatiables et infinis. Ne pas être inquiet pour demain, pour après-demain, nous conduit à être confiants en dépit des incertitudes, nous invite à nous en remettre à Dieu, notre soutien, notre Père aimant, plutôt qu'à nous-mêmes, à notre force de travail ou à nos biens. Alors, à ce jeune couple qui part, on va leur dire au revoir et on va leur donner trois phrases. Voilà celles que j'ai imaginées. Évidemment, vous pouvez en imaginer d'autres. D'abord, première phrase, la foi chrétienne ne vous rendrait pas forcément heureux selon les canons de la mode actuelle. Mais elle serait un plus pour vous de toute manière, car elle changerait les perspectives de votre vie. Deuxième phrase, la foi produirait en vous la certitude d'une survie au-delà de ce que votre biologie permettra, avec un contenu sans souffrance, sans deuil, sans larmes, mais ce véritable bonheur est à venir. Et enfin, la troisième et dernière phrase, dès ce jour où vous adopteriez la foi chrétienne, vous seriez au bénéfice de la présence de l'Esprit de celui qui en est l'auteur, un Dieu qui vous aime, un Dieu qui traverse avec vous les circonstances bonnes ou mauvaises qui jalonnent l'existence de toute l'humanité. Ne serait-ce pas une aide pour nous à faire nôtre cette maxime impossible de l'apôtre Paul ? Soyez toujours joyeux. Amen.